Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Politique. Notre invité ce matin, Éric Coquerel. Bonjour.
Bonjour.
Président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, député de la France Insoumise à mes côtés. Pour vous interroger, Jules Pecknard de la Tribune Dimanche et Anne Sora Dubois de BFM TV. Une actualité française aussi, mais une actualité internationale dont on va voir qu'elle a des répercussions directes sur la vie de chacun d'entre nous ici avec la résurgence de ce conflit entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis qui ont lancé ce matin même une nouvelle série de bombardements contre l'Iran pour, disent-ils, punir la mort de deux de leurs militaires lors de frappes iraniennes qui ont eu lieu il y a quelques heures en Jordanie. Et effectivement, Éric Coquerel, on a vu dès la semaine dernière, au moment où cela s'est retendu, eh bien que ça s'est retendu aussi sur la question économique et sur la question du prix du baril de pétrole, qui est déjà remonté. Les dernières heures, on était à 98 $ avant le week-end. Il était retombé à 70 $ début juillet. Très concrètement, eh bien, ça se retrouve vite à la pompe. En une semaine, plus quasiment 9 centimes pour le prix du diesel. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à une remontée durable du prix de l'essence à vos yeux? Est-ce que les Français doivent se préparer à cela?
Déjà, on peut se demander si c'est pas l'objectif de Donald Trump.
C'est-à-dire?
Cette histoire de relancer la guerre, de bombarder l'Iran, alors même qu'il sait et que nous savons qu'il n'y aura pas de victoire militaire sur l'Iran, ça s'est relativement mal terminé la dernière fois, elle a peut-être une explication. C'est que quand vous bombardez, le prix du Brent augmente. La spéculation augmente sur les prix du pétrole. Les compagnies pétrolières font plus de bénéfices. Je vous rappelle que Total, au premier trimestre 2026, ça fait plus 51%. Et nul n'ignore que M. Trump ou son fils ont des rapports financiers sur de telles affaires. Donc je pose la question, parce que c'est d'un point de vue géostratégique, si vous voulez, vis-à-vis des États-Unis, le fait de relancer cette guerre est assez incompréhensible, sauf s'il y a un intérêt autre. Et moi, je pense qu'il faut interroger les intérêts particuliers de Donald Trump.
Mais pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous leur dites ce matin, il faut vous préparer? Oui, le prix de l'essence va encore bondir, ça va être compliqué pour faire le plein, et donc, ceux qui ont la chance de partir en vacances, ça va être encore plus compliqué.
C'est déjà compliqué, puisque le prix est remonté à 2 euros.
C'est ça.
À nouveau, c'est un problème pour les Français. Je vous rappelle qu'il y a eu 30% de baisse de l'utilisation du carburant, et là, ça se passe au moment du départ en vacances. Et puis, en plus de ça, quand vous mettez de l'argent pour faire le plein, vous ne le mettez pas ailleurs. Donc, on peut supposer que le reste de l'économie, en termes de croissance, de consommation, va en pâtir. Nous, c'est pour ça que ça fait longtemps que nous avons dit, le gouvernement l'a refusé, mais on aurait dû l'anticiper, qu'au lieu de laisser filer cette augmentation, il aurait fallu bloquer les prix. Je précise bien, bloquer les prix au niveau des raffineurs, c'est-à-dire, pour être clair, en France, c'est Total, de façon à ce que, ça soit pas uniquement les Français, ça soit pas uniquement la collectivité qui pâtisse de cette affaire, mais aussi ceux qui font des bénéfices sur cette guerre. Malheureusement, c'est pas ce qui a été fait.
Alors, vous parliez de Total tout à l'heure, justement, il continue le plafonnement à 1,99 € sur l'essence et le diesel dans ses 1200 stations rurales et le week-end de grand départ sur les autoroutes en juillet et en août. On dit quand même merci Total.
Oui, alors, figurez-vous, j'ai auditionné il y a pas longtemps le président des groupements Leclerc, parce que et Monsieur Pouyanné juste avant en commission des finances. Monsieur Pouyanné a dit je suis content que Total reprenne un peu cette image d'entreprise favorisant le pouvoir d'achat des
Français. Protecteur du pouvoir d'achat des Français.
Et le président du groupe Leclerc a dit c'est une belle opération de marketing de Total. Pourquoi c'est une belle opération? Parce que ce qui se passe, c'est que comme ce sont les seuls qui peuvent plafonner les prix, puisque ce sont les seuls qui peuvent jouer sur les marges vis-à-vis des raffineurs, c'est eux le raffineur, les autres ne peuvent pas suivre. Donc vous avez un déplacement de la consommation des autres, de leurs concurrents, de la grande surface, vis-à-vis de Total. Donc
c'est un jeu de dupe pour vous?
Comment?
C'est un jeu de dupe, du coup?
Alors, en tout cas, c'est un coup de marketing qui ne va pas suffire à alléger la note des Français au niveau du plein.
Mais ils pourraient ne pas le faire.
Comment?
Ils pourraient ne pas le faire. Ils pourraient ne pas plafonner,
oui,
et du coup les autres ne s'alignent
pas. Faire une opération de marketing et de commercial, vous avez raison de le dire.
Je
préférerais quelque part qu'on impose et qu'on regarde que quand Total fait des bénéfices absolument pharaoniques, du fait de la guerre, du fait de la spéculation de la guerre. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette affaire, c'est jamais des problèmes d'approvisionnement. Continuez à avoir de l'approvisionnement de pétrole. C'est des problématiques de spéculation totale, en fait, d'ailleurs. Hein. Ça s'appelle du trading, via notamment Genève. Vous avez des opérations de trading. Et comme dirait M. Pouyanet, c'est une façon de capturer pour Total la hausse des prix. Donc, ils sont gagnants à tout niveau.
Vous
Moi, je dis que au lieu de laisser Total faire des opérations de marketing sur le prix de l'essence, je préférais que l'État bloque les prix en jouant sur ses marges de raffineurs-producteurs. Ça serait plus intéressant pour les Français.
Vous dites que c'est une opération de marketing, certes, mais est-ce que les deux ne sont pas compatibles? Peut-être une opération de marketing, mais qui profite aux Français. Ça a profité aux Français.
Le problème, vous comprenez bien que sur quelques semaines, le prix du pétrole qui, au lieu de passer à 2,10, passe à 2 euros, par exemple.
À 99, il le faisait.
Oui, à 99, passe à 2,10. Vous voyez bien que c'est pas la même chose que si on avait bloqué les prix en prenant la base du début du conflit, c'est-à-dire à 1,70 €.
Est-ce que Total n'a pas fait perte. Ce que l'État, est-ce que Total n'a pas fait justement ce que l'État n'a pas fait?
Non, Total, joue sur la mansuétude de l'État qui laisse faire des bénéfices absolument incroyable en profitant de cette situation. Et je vous répète, la solution, si vraiment on veut jouer à la fois pour le pouvoir d'achat et pour permettre aux Français notamment de continuer à partir en vacances, ça serait de bloquer les prix.
Est-ce que vous dites...
On l'a fait en 1990, et figurez-vous, quand on l'a fait en 1990, Total a même continué à faire des bénéfices. Donc, vous voyez, même ils peuvent faire les deux.
Est-ce que vous dites quand même merci Total?
Non, écoutez, ça, c'est bon. Vous êtes Monsieur Pouyanet, vous?
Pas du tout.
Bon, alors, on peut dire merci Total.
Mais est-ce que vous êtes allé voter? Vous avez une voiture?
Non, on va dire.
Mais juste.
Non, mais attendez, laissez-moi vous répondre.
Est-ce que vous avez une voiture?
Total paye sa juste part.
Tout à fait.
De l'effort national quand ce sont les entreprises pétrolières qui profitent de la situation actuelle, alors que les Français en pâtissent. Donc je vais pas dire merci Total. Je vais dire merci aux Français de continuer à aller acheter du pétrole et enrichir Total.
Est-ce que vous avez une voiture?
Oui, j'ai une voiture.
Thermique?
Hybride.
Est-ce que vous êtes allé faire un plein chez Total?
Il y a des moments où vous êtes carrément obligé, parce que quand vous prenez l'autoroute, je ne sais pas si vous savez, mais vous avez peu de chances de tomber sur une autre station.
Donc, vous avez profité, comme d'autres Français, de ce plafonnement.
Arrêtez, écoutez, on va arrêter de faire la promotion de Total. Je vous répète une chose, c'est que c'est une opération marketing qui leur permet de prendre des parts de marché sur leur concurrence, et donc pas quelque chose, qui dans l'économie générale de la distribution en France est vraiment extraordinaire. Et d'un autre côté, ce n'est rien par rapport à ce au prix que payent les Français. Ils payent 30 centimes de plus le litre d'avant le conflit, et c'est pas normal, et c'est quelque chose qui rejaillit sur la consommation intérieure, donc la croissance.
Vous demandez au gouvernement de bloquer, d'opérer un blocage des prix. Le gouvernement a quand même consenti à certaines aides.
Peut-être trop tard. 1,4 milliard.
Oui, voilà. Est-ce que vous préconisez que le gouvernement, malgré l'endettement, la situation de nos finances publiques qui est quand même très fragile, est-ce que vous appelez le gouvernement à consentir à d'autres aides? Et si oui, lesquelles?
Si vous avez bien compris, je préférerais que l'effort soit fait par Total. Je le répète.
Oui, bien
parce
sûr.
Parce que ces aides-là sont faites parce que le prix du carburant augmente.
Bien sûr.
Bon, donc, et en plus de ça, je vous fais remarquer une chose, c'est que les aides que met le gouvernement, ils s'en vantent d'ailleurs. Il y a eu un deuxième comité d'alerte il y a peu de temps, et le gouvernement s'est vanté de deux choses. Un, d'être un des pays européens où il y a le moins d'aides, en dessous de 0,1% du PIB. Et deuxièmement, d'être un pays européen qui joue sur des aides compensées par une baisse des dépenses publiques et non pas une fiscalité. Autrement dit, ce que les aides qui sont faites aux Français d'un côté, on leur prend de l'autre parce que il y a des budgets qui baissent pour compenser ça.
À quoi est-ce que vous appelez le qu'est-ce que vous demandez au gouvernement de
Je sais pas, je suis pas clair depuis tout à l'heure.
Blocage des prix.
Voilà. Je précise bien en jouant sur les marges des raffineurs et non pas la distribution, parce que la distribution c'est pas là en réalité où.
Alors, la question du portefeuille des Français, on le voit sur la question du prix de l'essence. Le budget 2027 est déjà en cours de préparation. Ce matin, la porte-parole du gouvernement met la pression sur vous, mais sur l'ensemble des forces politiques dans une interview au Journal du Dimanche. Elle juge que la responsabilité des forces politiques est immense. S'il n'y a pas d'accord, dit-elle, sur ce budget, c'est 7 à 8 mois de loi spéciale. Ça veut dire, dit-elle, gel des moyens des services publics, des soutiens aux entreprises, des dizaines de milliers d'emplois menacés. Est-ce que vous êtes prêt à assumer ce cataclysme?
Mais le cataclysme, c'est le budget qu'on nous présente. Parce qu'on oublie juste la terre. On a l'impression qu'on nous présente un budget extraordinaire et que, en fait, les parlementaires, y compris de l'opposition, seraient obligés de l'accepter, sinon c'est la misère du pays. Mais les budgets successifs qui nous sont proposés nous en met dans le mur. Et ce budget-là ne réglera rien. Pourquoi il réglera rien? Parce que d'un côté, en réalité, il fait l'impasse désormais sur l'échelonnement du baisse de déficit promis par le gouvernement qui espérait atteindre 3% en 2029. Là, tel quel budget, je peux vous assurer que tout ça, c'est de la science-fiction. Mais d'un autre côté...
Vous pensez que ça sera à combien, le déficit?
L'année prochaine, ouais. Mais le gouvernement a annoncé. Il vise 4,9%, c'est-à-dire ce qui pourrait être théoriquement une baisse de 1% de déficit, mais sauf que le coût de la guerre, justement, va très certainement augmenter à 5,3, 5,4 le déficit cette année, donc c'est 1,5 point, et encore faudra-t-il...
Le coût de la dette aussi, hein.
Comment?
Le coût de la dette aussi, hein.
Le coût de la dette aussi, mais je vais y venir, si vous voulez bien. Je continue à... Mmh. Donc, ça veut dire que le gouvernement, en réalité, cette espèce de mirage qu'on nous donne sur les 3% de déficit en 2029, c'est un échec. C'est-à-dire qu'ils échouent même sur ce qui fait le fond de leur politique. Mais en contrepartie, c'est des baisses de coûts budgétaires. Il y a 1 milliard de baisses de coûts budgétaires sur le budget de l'État.
Justement.
Et 6 milliards si on compte, si on met de côté le budget militaire qui lui augmente.
Quelles sont vos lignes rouges à la France Insoumise, précisément, sur ce budget 2027?
Mais d'arrêter de faire ces politiques-là. Parce que les conséquences...
Donc vos lignes rouges, c'est quoi? Vous dites, il n'y a pas de coupe sur le salaire des fonctionnaires. Il n'y a pas de désindexation.
Vous savez que le gel, l'indice des salaires des fonctionnaires est gelé depuis des années.
Oui. Donc vous dites, la question, vos lignes rouges, c'est quoi?
Bien sûr. D'arrêter de mettre l'État, les services publics à l'os. Voilà, parce que ça a des conséquences très concrètes sur la vie
des Français. Plus de baisse budgétaire des services publics.
Voilà, je vous le dis, de l'État, des services publics.
Un maintien du budget des services publics en l'État, ça passe.
Le problème, c'est que quand on parle de chiffres comme ça, les gens se disent, bon, mais après tout, 1 milliard en moins, qu'est-ce que ça peut faire, 6 milliards en moins. Je vous dis très concrètement ce que ça donne. Par exemple, prenons la question des incendies. D'accord? Les incendies, il faut, on a 7 fois une surface 7 fois plus grande de surface brûlée depuis 2017, 12 fois plus d'incendies. Le budget de la sécurité civile n'a augmenté que de 40% dans le même temps. Cette année, le budget de la sécurité civile, il va pas augmenter. Il y a 60 millions d'euros qui vont être consacrés d'augmentation au ministère de l'Intérieur, global.
Vous demandez
quel
budget ?
Et donc, je vois pas comment on va, par exemple, ne serait-ce que le Canadair qui est premier, ils en promettent deux. Je ne vois même pas comment ils vont en payer un. Donc, concrètement.
Vous demandez quel budget pour la sécurité civile dans le prochain budget ?
En fait, pour tout simplement les budgets qui seraient nécessaires pour au moins tenir les promesses.
Ça veut dire quoi? Il faut le doubler,
donc,
selon vous?
À mon avis, il faut plus que le doubler au niveau des incendies. Si vous entendez bien qu'il y a 7 fois plus de surface brûlée et que, dans le même temps, depuis 2 ans, on l'augmente pas, bien évidemment, il faudrait l'augmenter. Les budgets du SDIS, c'est-à-dire les SDIS, c'est les budgets...
Services départementaux qui gèrent les pompiers.
...sont stables depuis 2017, en réalité. Il n'y a pas d'augmentation, alors même qu'il y a plus d'incendies. C'est juste pour vous donner un exemple de ce que ça produit. Et je pourrais comme ça le multiplier sur la question des canicules, sur la question de l'isolation thermique. C'est un budget qui ne règle rien de ce point de vue-là.
Éric Coquerel, question assez simple. On entend vos lignes rouges. Est-ce que vous seriez prêt, parce que la temporalité de ce budget est quand même très particulière, est-ce que vous seriez prêt, le groupe La France Insoumise, à voter une chute de ce gouvernement sur ce budget en pleine campagne présidentielle?
Mais s'il fait 40... Si ce budget, voilà, tel qu'il est aujourd'hui, ils essaient de le passer par 43... Je pense que c'est ce qu'ils recherchent, en cherchant un accord, notamment avec les socialistes. On verra bien évidemment, votre ascension. On peut pas demander à l'opposition, parce qu'on a un gouvernement qui impose des budgets, je vous rappelle, minoritaires. Ils sont minoritaires depuis juillet 2024, de dire, ah bah écoutez, vous êtes minoritaires, mais pour qu'il n'y ait pas de censure, on va vous laisser passer.
Mais vous y compris en pleine campagne présidentielle.
Y compris en pleine campagne présidentielle, il faut pas un mauvais budget pour la France. Ce budget est mauvais pour la France.
Vous pourriez vous dire, les Français, ils ont vu 4 ou 5 gouvernements tomber, on tranchera ça dans 3 mois pour la présidentielle.
Et en attendant, on aura un budget qui réglera rien. Mais les Français, excusez-moi, mais quand...
Ça coûte cher aussi, les chutes de
gouvernement. Bien sûr, mais concrètement, ce qui coûte cher, par exemple, c'est de rien faire et d'avoir rien anticipé depuis 2 ans sur la question des bifurcations écologiques.
Donc ce que vous nous dites, c'est que la campagne présidentielle, monsieur Coquerel, c'est pas parce qu'on sera en campagne présidentielle...
Qu'on laisse passer un mauvais budget.
Vous
croyez que les gens sont d'accord pour laisser un budget qui, par exemple, uniquement sur la question... des effets de la canicule. Je ne parle même pas de la prévention.
Parce que une des campagne présidentielle n'exclut pas une motion de censure, on est bien d'accord.
Eh bien, l'année prochaine, je pense que si ce budget passe par 49.3 et que rien n'a été mis sur la table pour permettre qu'on vive dans des conditions ne serait-ce que supportables dans des EHPAD, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les bouilloires thermiques, je pense que si les gens... à ce moment-là, voit qu'il y a un budget qui a été passé alors qu'il ne règle rien, je pense qu'ils auront raison de se retourner contre ceux qui l'ont accepté.
Alors justement, question financière, parce qu'il y a ça aussi, petite question très concrète, on a appris qu'Edith Cresson, ancienne première ministre, avait pu finalement conserver son véhicule de fonction contrairement aux promesses de Sébastien Lecornu. Matignon le justifie notamment pour raisons sanitaires et assure que ça prendra fin le 1er août. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, il y avait une règle, donc je ne comprends pas qu'elle ne soit pas respectée. Voilà ce que j'en pense.
Alors, sur l'Assemblée nationale, on a vu qu'il y a eu un débat très agité aussi cette semaine sur une des dispositions phares du projet de loi sur la protection de l'enfance. Il y a des ajouts qui avaient été faits à ce projet de loi, notamment après la terrible affaire Liana. Un certain nombre de députés de gauche, dont les députés LFI, ont décidé de voter contre l'instauration de la perpétuité pour les violeurs en série sur des mineurs de moins de 15 ans. Mmh. Comment est-ce que c'est possible, Éric Coquerel?
C'est possible parce que...
Quand on viole plusieurs fois des jeunes filles de 12, 13, 14 ans, on ne mérite pas la perpétuité?
Parce que la question n'est pas de savoir si, entre guillemets, vous méritez la perpétuité. La question, c'est qu'est-ce que ce projet de loi? Ce projet de loi, théoriquement, c'est pour protéger l'enfance. D'accord? Donc, il y a longtemps que nous savons qu'en réalité, la surenchère pénale est, par exemple, de dire vous allez mettre une peine tellement forte qu'elle va être dissuasive, ça ne marche pas. Mm-hmm. On rappelle, je n'ai pas besoin de vous rappeler...
Alors, on est au-delà de ça.
Comment?
On est au-delà de l'effet dissuasif. Quand vous avez des personnes qui violent 10, 15 gamins.
Vous pensez que quand quelqu'un même ne viole qu'un gamin, vous pensez que, à un moment donné, le fait que la peine soit plus longue, c'est dissuasif.
Juste que c'est encore pire,
savez,
quand on est multirécidiviste.
Ça fait penser à monsieur Badinter lorsqu'il a, fait voter la loi contre la peine de mort, qui rappelait que quand Bontemps a été condamné à mort, vous avez monsieur Henri qui criait à
vous
mort.
Vous faites comme votre collègue
celui-là même qui l'a défendu.
Citer Badinter, c'est très mal passé à l'Assemblée.
Je reviens.
Vous savez que ça a déclenché un tollé.
C'est l'aspect dissuasif, on sait que c'est pas ça qui protège. Mmh. D'accord? Deuxième chose, après, on va pouvoir, à un moment donné, considérer que, bah, du coup, par rapport à des crimes horribles ou de ce type, la seule solution, c'est la perpétuité. Mais si c'est la perpétuité, d'ailleurs, ça a été proposé, même le gouvernement a quand même voté contre, il faut que ça soit incompressible si on pense que ces gens-là ne doivent plus sortir. Donc, la question, elle n'est pas là. La question, elle est, si on veut protéger les enfants, comment on fait pour prévenir? Comment on fait pour empêcher la récidive? Et figurez-vous, de ce point de vue-là, les associations... Attends, laissez-moi finir. On peut pas, d'un côté, laisser penser que avec une surenchère pénale, où on met toujours la surenchère pénale, on va faire semblant, par rapport aux Français, de régler la question. La question, elle se règle par des moyens.
Vous votez non à la perpétuité pour les violeurs d'enfants multirécidives.
Mais parce que c'est une surenchère.
Vous comprenez pourquoi ce vote de non,
la question n'est pas, la question, mais, vous savez, le fond d'une société, par rapport à des peines, c'est de penser si une personne peut ou pas, à un moment donné, une fois qu'il a accompli sa peine, se racheter, etc.
C'est un problème philosophique. Ça sert à ça, la prison, c'est
oui,
de
mais
dire
là,
que ces
là,
personnes.
Vous voyez bien qu'en réalité,
personne ne représente un danger pour la société.
La question qui est posée là, les gens ne peuvent pas remettre la peine de mort parce que, notamment, au niveau des traités européens, c'est pas possible. Mais vous voyez bien que, de manière sous-jacente, c'est la question, c'est-à-dire l'idée que on va régler tous les problèmes de la société avec une surenchère pénale.
Je dis que
c'est démagogique. Je dis que c'est hypocrite parce que si après ça, j'ai vu la ministre qui était pourtant plus raisonnable, mais qui après a exploité cette histoire sur les médias. Si après ça, vous dites « Ah, mais en réalité, ils n'ont pas voulu ça, ils n'ont pas voulu... » certains ont même dit que nous voulions laisser en liberté, c'était du côté
vous
du RN, Monsieur Odoul. Ce que nous proposons, c'est qu'on mette les moyens nécessaires en protection de l'enfance, au niveau de l'ASE, au niveau de la récidive. Aujourd'hui, il faudrait au moins 3 milliards d'euros. Et bien, figurez-vous, le budget de la justice ne propose que 130 millions d'euros en plus. Et en plus, c'est indiqué que ça ira surtout sur les questions de personnel de prison et le narcotrafic. Autrement dit, c'est de l'hypocrisie.
Pour vous, Éric
de dire
Coquerel,
qu'on va régler cette question.
Pour vous, Éric Coquerel, les pédocriminels ne sont pas incurables, comme l'a dit Gérald Darmanin?
Ah, je pense que quelqu'un qui viole un bébé, qui viole plusieurs bébés, on va peut-être comprendre qu'à un moment donné, je pense que la problématique est telle que s'il le fait, c'est pas le fait que il risquera la perpétuité qui va l'empêcher de le faire. Mmh. D'accord? Voilà, c'est ça la question. Mmh. Donc, oui.
Mais est-ce qu'ils sont incurables?
Non, je ne pense pas qu'ils soient forcément incurables. Par contre, il faudrait se donner les garanties quand ils sortent de prison qu'il n'y ait pas de récidive. Et ça, c'est un problème de moyens. C'est un problème de suivi de la justice. C'est un problème de suivi de psy, etc. Et là-dessus, il nous manque des moyens de manière cruelle. Et tant qu'on n'aborde pas cette question, eh bien, on en revient simplement, de manière démagogique et hypocrite, à laisser dire qu'on va régler le problème en augmentant sans arrêt les peines de prison avec une espèce de surenchère qui ne règle rien. Parce que je vais vous dire une chose. Les Allemands, par exemple, ils ont beaucoup moins de cas de ce type. Et pourtant, ils n'ont pas une surenchère pénale. Par contre, ils mettent les moyens en termes de contre la récidive, ils mettent les moyens contre l'accompagnement. Donc, c'est un problème de fond que nous mettons sur la table. Et arrêtons de laisser penser aux Français que si vous augmentez les peines de prison, pourquoi pas incompressible, ouais. Ça a été proposé. En réalité, vous réglerez le mal.
Éric Coquerel, on voit que cette question évidemment de la sécurité et de la justice, ça va être au cœur de l'élection présidentielle qui a débuté. Jean-Luc Mélenchon est en forte dynamique, on l'a vu dans les sondages à gauche, pourrait même se qualifier pour le second tour. Ce matin, justement, la porte-parole du gouvernement, le cible, Maud Bréjon dit « Jean-Luc Mélenchon est communautariste et porte un projet de démantèlement de l'autorité républicaine ». Elle ajoute « Derrière l'expression marketing de Nouvelle France, c'est bien de l'effacement de la France dont il s'agit ». C'est ça votre projet, le démantèlement de l'autorité républicaine et l'effacement de la France ?
À votre avis.
À vous de répondre ?
Bon, écoutez, moi, je ne vais pas répondre à toutes les phrases provocatrices qui sont lancées comme ça, sans aucun argument, que ces gens-là viennent débattre de projets, qui viennent débattre de ce que nous mettons sur la table. Par exemple, on parlait d'écologie, excusez-moi. On a mis sur la table la question d'éco-régions, c'est-à-dire le fait que la planification écologique se décline par les régions organisées par versant. Personne ne relève, personne ne discute. On nous met des anathèmes, alors que ça soit
effacement de la
cette
France,
personne ou que ça soit Monsieur Glucksmann.
Démantèlement de l'autorité républicaine.
L'effacement de la France pour un pays qui demande à ne plus être aligné derrière les États-Unis d'Amérique et qui demande la souveraineté industrielle numérique et à mettre le paquet pour qu'on puisse continuer à respirer sur cette planète, notre pays, c'est pas vraiment l'effacement de la France, c'est le moins qu'on puisse dire.
Bernard Cazeneuve a annoncé cette semaine, enfin, il a dit qu'il proposait sa candidature à l'élection présidentielle. Il a utilisé un mot devenu célèbre de Jean-Luc Mélenchon. Il parle à votre sujet et au sujet du RN d'un double dégagisme, dit-il, parce qu'ils se nourrissent l'un l'autre. Vous avez quelque chose à lui répondre ?
Ouais, je vais lui dire quelque chose. Bon, au-delà de l'humanisme de Monsieur Cazeneuve, dont je vous rappelle que c'est lui qui a mis sur place en 2017 la loi où on tire pour refus d'obtempérer, ce qui fait qu'il y a 35 personnes, passagers de voiture, qui ont été tués depuis. D'accord ? Donc, en termes d'humanisme, plus la mort de Rémi Fraisse, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas extraordinaire. Mais surtout...
Il y a des civils aussi qui sont morts de refus d'obtempérer.
Toute personne qui se dit de gauche et qui explique d'une certaine manière, qui renverra dos à dos le Rassemblement National, l'extrême droite et une formation de gauche, d'accord, ces gens-là ne sont pas de gauche. En réalité, ces gens-là sont de droite. Voilà la réponse que je fais à Monsieur Cazeneuve. C'est uniquement pour essayer d'aller capter.
Pour vous, Bernard
Cazeneuve
est de droite. Il est de droite.
En disant ça, bien sûr. Donc, au deuxième tour, entre la gauche, entre un candidat de gauche et un candidat du RN, ils vont renvoyer dos à dos et laisser le pays à l'extrême droite. Enfin, tout ça n'est pas raisonnable. Surtout que ces gens-là prennent des responsabilités puisqu'ils parlent soi-disant un électorat de gauche. Or, si l'électorat de gauche, évidemment, s'abstient au deuxième tour, là, il y a des chances que l'extrême droite,
l'extrême droite de gauche.
Donc, je trouve que tous ceux qui se permettent d'avoir ce genre de discours, Monsieur Cazeneuve, Monsieur Glucksmann, il y en a d'autres, en réalité, c'est un discours qui favorise la droite et même l'extrême droite.
Pour la présidentielle, vous espérez rallier ce qu'on appelle la totalité du peuple de gauche?
Oh, plus largement, parce que on sait très bien que...
Les socialistes aussi, ceux qui ont des sensibilités socialistes, les sympathisants.
Par exemple, tout l'électorat qui a voté pour le programme de rupture du Nouveau Front Populaire qui nous a mis en tête en 2024, je pense qu'il est susceptible de revoter pour un candidat qui propose quasiment le même programme,
aussi.
Un programme de rupture.
Et les centristes
là-dedans, il y a des socialistes, il y a des gens qui ont voté socialistes.
Éric Coquerel,
mais au-delà de ça, on s'adresse à tout l'électorat en France qui ne supporte plus ce qui vient de se passer depuis 2017, c'est-à-dire la captation des richesses par une noblesse d'argent et le fait qu'il manque terriblement d'argent, justement, pour les services publics, pour l'État, et que ce gouvernement, M. Macron, continue de proposer la même chose.
Éric Coquerel, il y a quelqu'un qui s'invite dans cette campagne.
Oui, un autre personnage, mais qui n'est pas français, qui s'invite. Et je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. C'est M. Elon Musk, qui est le propriétaire de X, anciennement Twitter, qui, sur X, a expliqué que Marine Le Pen était le dernier espoir de la France. Alors, ce n'est pas totalement une surprise, parce qu'il avait soutenu l'AFD, par exemple, en Allemagne, donc parti d'extrême droite allemand. Est-ce que ça vous a étonné d'abord et est-ce que vous auriez préféré qu'il soutienne un autre candidat défavorable qui veut faire turbuler le système, donc Jean-Luc Mélenchon ?
Bien sûr, j'aurais préféré que M. Musk soutienne un candidat de gauche qui propose exactement l'inverse de ce qu'il dit. Écoutez, M. Musk, il a une logique. Il a soutenu un candidat suprémaciste et raciste qui est M. Trump et maintenant il soutient en Europe les candidats suprémacistes et racistes.
Ça a du poids d'après vous ?
Vu le poids
sur X, peut-être ça peut favoriser parce que on parlait tout à l'heure de la cette loi sur la question de la perpétuité au moment même où on débattait sérieusement de cette question, il y avait des gens du RN qui tweetaient sur nos députés en disant que nous étions complices des violeurs d'enfants, etc. Tout ça, c'est sur X. Donc vous voyez bien que quelque part, oui, ça peut, à un moment donné, être une ingérence, et d'ailleurs, je pense qu'il faut faire très attention, par rapport aux prochaines élections,
vous craignez favorisant l'extrême droite. Vous craignez, pendant la campagne présidentielle, une manipulation du réseau social X?
Ah ouais, c'est tout à fait possible. Alors là, c'est tout à fait possible. Je vais vous dire, je crains des ingérences étrangères, et dans les ingérences étrangères, tout le monde le sait, parce qu'il l'a même annoncé, on sait que la plupart viennent des États-Unis, en réalité.
Vous demandez quelque chose à l'État?
Notamment par rapport aux GAFAM.
Vous demandez quelque chose à l'État?
Oui, une surveillance absolument accrue, qu'on ne recommence pas ce qui s'est passé par rapport au municipal, où je vous rappelle, plusieurs de nos candidats ont subi des ingérences étrangères, probablement venant d'Israël. Bon, ça a été dit après, mais ça n'a pas été protégé pendant, donc je souhaite qu'on soit protégé de ça, oui.
Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir été notre invité avec ces annonces effectivement sur le budget, les lignes rouges de la France insoumise, mais également effectivement cette demande renouvelée au gouvernement, le blocage des prix de l'essence parce que on le voit effectivement la guerre semble vraiment reprendre au Proche-Orient entre l'Iran et les États-Unis. On accueille d'ailleurs le général Patrick Dutartre, ancien général de l'armée d'air, ancien leader de la patrouille de France. Bonjour mon général, merci d'être avec nous. On évoquait, mon général, il y a un instant, les conséquences directes, bien sûr, de cette remontée en tension ces derniers jours de l'affrontement entre les États-Unis et l'Iran. On a vu que le prix du baril de pétrole a réaugmenté par rapport à un moment où il était retombé à $70. Il est désormais à près de $88. On a vu que le prix de l'essence aussi à la France, ça se répercute tout de suite dans le réservoir de tous nos compatriotes français, a repris près de 9 centimes pour ce qui est du diesel cette semaine. Je le rappelle, 2 soldats américains ont été tués hier en Jordanie. Il y en a un autre qui est porté disparu. 4 blessés, ce sont les toutes premières victimes et pertes américaines depuis le mois de mars. Dans un instant, on va prendre la direction du Golfe parce qu'il y a de nouvelles informations qui nous parviennent à l'instant où je vous parle notamment du détroit d'Ormuz. Bonjour Naoufel, merci beaucoup. Vous êtes présent à Doha, au Qatar. On va vous retrouver dans quelques instants où vous êtes avec Benjamin Danan. Des informations que vous allez nous donner dans un instant. Mais d'abord, mon général, comment vous appréhendez ces derniers éléments, cette reprise, on le voit, du conflit en quelques mots, et on prend tout de suite la direction d'Ormuz ensuite?
Oui, situation relativement confuse, hein, mais la stratégie américaine semble être d'affaiblir suffisamment l'Iran, à la fois sur le plan militaire pour diminuer son pouvoir de nuisance, et également sur le plan économique, en espérant une réaction qui retourne les Iraniens, en tout cas les gardiens de la révolution, à la table des négociations. En fait, il semble que c'est la stratégie américaine. Et puis, en représailles de ces tirs qui sont lieu essentiellement autour du détroit d'Ormuz, les gardiens de la révolution tirent sur leurs voisins, notamment le Koweït, Bahreïn et la Jordanie.
Et on va voir avec de nombreux enjeux, notamment les usines de dessalement. Mais tout de suite, nous prenons la direction du terrain où on retrouve à Doha, au Qatar, Naoufel El-Khawafi. Vous êtes avec Benjamin Danan. Bonjour Naoufel. Cette information qui nous parvient, il y a tout juste quelques secondes, je la découvre en même temps avec vous. L'Iran qui dit avoir arrêté à raisonner, quelles sont vraiment les informations dont vous disposez, 2 navires dans le détroit d'Ormuz?
Alors, les gardiens de la révolution expliquent justement, que 2 navires ont été impliqués dans un accident sur ce détroit d'Ormuz. 2 navires qui tentaient de passer ce passage maritime via un itinéraire dangereux. C'est ce que viennent de déclarer les gardiens de la révolution. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ce détroit d'Ormuz est au cœur, l'épicentre d'une certaine manière des hostilités depuis près d'une semaine. Les hostilités, les attaques s'y sont multipliées et la guerre de la communication également. Parce que d'un côté, vous avez l'Iran qui en revendique son contrôle, qui explique que ce détroit d'Ormuz est fermé, qui n'hésite pas à attaquer certains navires qui osent s'y aventurer. Et puis de l'autre côté, vous avez l'autre version, celle des États-Unis qui ont décidé de rétablir ce blocus naval depuis plusieurs jours, qui chaque nuit cible spécifiquement les alentours de ce détroit d'Ormuz. Ça a été encore le cas cette nuit pour cette 8e nuit de frappe consécutive en Iran, dans le sud du pays, à proximité de ce détroit d'Ormuz, des sites stratégiques, des sites de surveillance ou encore des tours de contrôle. Et cela, la reprise des hostilités sur ce détroit d'Ormuz, là, pour conséquence, le ralentissement du trafic maritime qui est paralysé depuis plusieurs jours, qui a atteint son plus bas niveau depuis près de 3 semaines. Et conséquence, c'est le prix du baril du pétrole qui n'a de cesse d'augmenter. Ça risque de se poursuivre encore les jours prochains.
Merci beaucoup Naoufel El-Khawafi avec Benjamin Danan depuis Doha au Qatar. On voit que ça reste toujours une guerre d'image entre les deux pays et d'annonce, général Dutartre.
Oui, guerre d'image, guerre de communication, parce que l'immobilisation annoncée par les gardiens de la révolution de ces deux ces deux pétroliers ou ces deux navires, ça veut tout dire et rien dire. Est-ce qu'ils se sont accrochés? Est-ce que ils sont eux-mêmes arrêtés ou fait demi-tour? Est-ce qu'il y a eu une intervention humaine? Est-ce qu'il y a eu des tirs? Donc on manque un peu de précision, mais c'est vrai que la communication est extrêmement importante parce que en fonction de ce qui est dit, en fait, il y a une réaction évidemment des armateurs et de ceux qui tentent de passer ici ou là.
Huitième nuit de frappe, est-ce que Washington est en train de changer de stratégie?
On se demande quelle stratégie ils poursuivent. En fait,
ils sont en train de cibler des ponts. C'est quoi la justification opérationnelle?
Alors, la justification, en fait, c'est que, un, ils ciblent essentiellement toutes les cibles qui sont autour de Bandar Abbas. Donc, sur une bande d'à peu près 300
km. Rappelez-nous, Bandar Abbas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi
Bandar Abbas est vraiment juste en face de la pointe du détroit d'Ormuz. Et donc, c'est un peu le centre des gardiens de la Révolution pour toutes les actions navales qui se poursuivent dans le détroit. Donc, ce qu'on observe, en tout cas, c'est un ciblage essentiellement autour de Bandar Abbas, 300 km quasiment de part et d'autre. C'est-à-dire ce qui a été cité par votre correspondant, effectivement, c'est-à-dire les radars de détection, les centres de missiles ou de drones, et également des navires rapides. Bon, ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'il semblerait, et c'est pour répondre précisément à votre question sur les infrastructures, c'est qu'il souhaiterait en même temps isoler Bandar Abbas en fait du reste de la poursuite continentale. Alors qu'est-ce que c'est il y a 3 ou 4 axes en fait principaux qui mènent à Bandar Abbas. On rappelle que Bandar Abbas c'est quand même 50% du transit commercial qui s'effectue par ce
et on le voit regarder sur cette carte d'ailleurs.
Et donc c'est extrêmement important. Donc c'est juste en bout de la pointe et ben la stratégie tout simplement c'est de détruire les ponts qui arrivent vers Bandar Abbas de telle manière à ce que ça évite l'acheminement logistique et l'acheminement militaire sur cette ville.
Là, on a eu les premières pertes américaines, donc 2 soldats tués, 1 disparu. Est-ce que, d'après vous, ça constitue un...
Alors, c'est pas les premières pertes de cette guerre, mais donc, en tout cas récentes. Depuis 2 mois, c'est tout à fait juste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Apparemment, on n'a pas trop de détails parce que personne ne communique vraiment là-dessus, mais il semblerait que ce soit un tir de missiles balistiques. Vous savez que même les Israéliens, avec leur dôme de fer, ne peuvent pas empêcher tous les missiles balistiques d'arriver sur leur territoire. Et en Jordanie, il n'y a pas de dôme de fer. Et effectivement, sur une base américaine, il semblerait que ce soit l'un de ces missiles qui soit arrivé sur une base américaine et donc tué ces 3 malheureux soldats.
C'est un désaveu terrible pour Donald Trump qui disait que tout était réglé, non?
Bon, je ne sais pas si on peut dire ça, mais vous pouvez pas faire la guerre sans prendre des risques et sans
perdre. Ça peut changer quelque chose côté opinion américaine. Est-ce que la pression peut
faire plus forte? À mon avis, pas ce stade. Là où ça changerait beaucoup, à mon sens, c'est s'il y avait des soldats qui tombaient sur le sol iranien, des aviateurs, ce que je ne souhaite absolument pas, évidemment. Ça pourrait changer.
En général, vous venez de dire quand on fait la guerre, donc ces deux pays sont bien en guerre.
Oui, mais une drôle de guerre, en fait. Une guerre de communication, une guerre de pression, une guerre d'attaque.
Parce qu'on est dans un moment où les frappes sont presque plus intenses que certains moments où officiellement ils étaient encore en guerre. Et oui, ça frappait moins.
Là, ça frappe de manière mesurée, parce que c'est pas une guerre totale. Et d'ailleurs, c'est un peu les menaces des gardiens de la Révolution en ce sens, qui sont prêts à promettre à Donald Trump une guerre totale. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que font les Américains? Ils ciblent essentiellement des sites militaires ou des sites des gardiens de la Révolution. C'est pas des bombardements massifs comme ils pourraient le faire avec les moyens.
Du coup, la stratégie semble plus précise, plus...
Oui, absolument, précise.
Moins erratique que... Voilà, qu'initialement.
Absolument, ça semble relativement modéré, entre guillemets, en tout cas avec une certaine retenue. Et par ailleurs, les Iraniens, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ciblent éventuellement, le plus possible, les bases militaires américaines en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn, mais très souvent, ce sont maintenant des cibles civiles. Et d'ailleurs, c'est dénoncé par tous les pays du Golfe, notamment lorsqu'ils ciblent les installations électriques, notamment au Koweït, et les usines de dessalement.
Alors, pourquoi, effectivement, c'est absolument stratégique dans le Golfe, ces usines de dessalement? On entend dire certains experts qui disent « taper ces usines de dessalement », c'est provoquer la mort de ces pays du Golfe. Pourquoi ?
90%, je crois, de l'eau consommée par les habitants dans cette zone provient des usines de dessalement. Hein. Pour ceux qui sont allés dans ces pays-là, moi j'ai la chance d'y passer. Bah, il fait très très chaud. Hein. Je veux dire, c'est rien. Le canicule, c'est tous les jours. Hein. Et donc ils ont besoin d'eau, évidemment. Il y a très peu de pluie et donc ses principales ressources. Il y a quelques pluies, je veux dire, venues du ciel, mais il y a aussi quelques pluies dans le sol. Mais l'essentiel des ressources, évidemment, pour le développement, c'est l'usine de dessalement.
Une arme vitale, vous diriez ?
Ah bah oui, disons que c'est la ressource. Mais l'Iran n'a pas non plus intérêt à jouer cette carte-là, parce que les bombardements, la retenue américaine, là, elle ne serait plus de mise. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les Américains peuvent faire de même, à la fois sur l'eau, mais essentiellement aussi sur l'électricité. Et ça, il faut savoir que il y a une immense centrale électrique au nord-est de Téhéran, et celle-là, elle est envisagée d'être détruite s'il y avait évidemment des attaques.
Et je vous propose justement, en général,
sur ces usines,
qu'on aille un peu plus loin avec Anaïs Girard. Bonjour Anaïs, merci d'être avec nous. Justement, on le dit, ces sites vulnérables, ça revient des cibles absolument stratégiques, sont au cœur des tensions que l'on voit ressurgir ces dernières heures au Moyen-Orient. Et on le disait, ces usines de dessalement d'eau qui consistent justement à transformer l'eau salée en eau potable, c'est dans la ligne de mire aujourd'hui des Iraniens.
Et vous le voyez, cette image, pour illustrer ça, elle est très représentative. Cette image du Koweït hier, un immense panache de fumée se propage après une frappe iranienne sur une centrale électrique et de dessalement. Le même type d'installation avait déjà été visé la veille et la réaction des autorités ne s'est pas fait attendre. Je cite, le ciblage répété de ces installations vitales révèle une démarche hostile, systématique visant des sites civils et des infrastructures essentielles, mettant en danger la vie et la sécurité des civils. Les civils, justement, se disent inquiets par la tournure des événements et pour cause, il a fait 47 degrés au Koweït hier et ces attaques ont mis à l'arrêt plusieurs unités de production.
Justement, quand on voit tout cela, on voit qu'il y a une inquiétude profonde parce que ce dessalement de l'eau de mer, c'est une question de survie pour ces pays dans ces régions très arides.
Une question de survie, c'est tout à fait le mot. Plus de 100 millions de personnes dans cette zone dépendent directement de l'eau dessalée. Il suffit de regarder cette carte pour comprendre. 70% de l'eau potable en Arabie Saoudite provient de l'usine, des usines de dessalement, 86% pour Oman et même 90% pour le Koweït. Autrement dit, pas d'usine, pas d'eau. Dans la région, on en compte, en fonction des sources, entre 400 et 450 de ces usines. 10 des plus grandes usines se concentrent du monde, hein, se concentrent d'ailleurs sur les rives du Golfe et de la mer Rouge. Pour l'Iran, ces usines sont des cibles capitales et vulnérables. Toutes sont à portée de tir. Et le problème, c'est que ce type d'installation, eh bien, il est très complexe. En cas de gros dégâts, les réparations peuvent être très longues, durer parfois plusieurs mois. Et en cas de mise à l'arrêt, cela aurait des répercussions immédiate sur le quotidien de ces pays, sur l'industrie bien sûr, mais aussi sur des établissements essentiels comme les hôpitaux. Et un tel scénario pourrait contraindre les gouvernements à procéder à des rationnements de l'eau.
Merci beaucoup Anaïs. Tout ça, bien sûr, Jules, ça pose la question des armements iraniens.
Des désarmements iraniens, parce qu'on constate un élargissement du conflit, donc à la Jordanie, au Koweït. On constate que l'Iran cible donc ces usines de dessalement.
L'Iran qui suit pour l'instant, oui, pour relativiser sur les 400-500.
Mais je pense que pour les téléspectateurs qui voient que l'Iran a été sévèrement bombardé, que le régime est tout de même affaibli, comment est-ce que l'Iran, question simple, a encore les moyens de mener ces opérations?
Bah, quelque part, ça montre une partie de la pertinence de l'offensive américaine, parce que vous imaginez la capacité de nuisance en fait que représente l'Iran s'il n'y avait pas eu aussi toutes ces campagnes. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle ça a été un tel seuil en fait, à la fois dans l'armement nucléaire, enfin dans le risque d'armement nucléaire, et à la fois le risque d'avoir un volume d'armement suffisamment important, et en plus camouflé dans des tunnels. C'est une vraie menace pour la région, et c'est la raison pour laquelle Israël et les Américains ont décidé d'entreprendre cette opération. opération. Mais évidemment, il serait temps que tout ça s'arrête. Mais je pense, vous observez bien d'ailleurs, que les répliques iraniennes sont de moins en moins importantes tout de même.
Mais elles existent encore.
Mais évidemment, elles existent. Mais personne ne sait exactement le niveau des stocks. Ni la CIA, les services de renseignement israéliens sont capables de nous dire précisément
donc
ce qui reste.
Sa capacité de financement de ces opérations.
Le financement, évidemment, diminue, mais surtout la capacité de fabrication et de stockage. En fait, ça fait 47 ans que l'Iran s'arme pour un conflit de cette nature. Alors là où on a du mal à définir les stocks, c'est ceux qui sont enfouis dans des tunnels ou sous certaines montagnes. Et ça, à mon avis, militairement parlant, c'est un objectif qu'il faudrait peut-être un jour atteindre si cette guerre se poursuit.
Le Koweït affirme qu'il peut répondre à une attaque iranienne. Est-ce que le Koweït peut entrer dans cette guerre ?
Le Koweït, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. On remarque d'ailleurs que ces deux grands pays, l'Arabie saoudite et les Émirats, ont été très peu touchés. Il n'y a pas de tir en ce moment sur les Émirats arabes unis. Alors pourquoi ? Est-ce que parce qu'il y a eu un déblocage de certains fonds, on estime 6, 8 milliards de dollars dans le cadre du début d'accord entre les Américains et les Iraniens, l'Arabie saoudite parce que les représentants saoudiens sont allés en Iran pour les obsèques de d'Ayatollah Khomeini. Et donc, Khamenei, oui, chaque fois je confonds le mot. Et donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu ces attaques. Mais cela dit, ça peut évidemment repartir. Donc, le Koweït a des moyens beaucoup plus limités que ceux des Émirats arabes unis ou de l'Arabie saoudite, qui sont beaucoup plus conséquents. Pourquoi la Jordanie est ciblée ? Parce qu'il y a des bases américaines en Jordanie.
Alors justement, on va écouter les propos du nouveau guide suprême qui s'est exprimé, qui se montre extrêmement menaçant. Écoutez-le.
Les violations répétées par le grand Satan, des engagements pris dans le cadre du mémorandum d'accord signé entre le président de l'Iran et des États-Unis, ont une fois de plus démontré à tous cette vérité. La signature du président des États-Unis est totalement dénuée de valeur et de validité, tandis que l'intimidation, les ambitions hégémoniques et la sauvagerie sont des composantes indissociables du credo et du mode d'action américain.
Qu'est-ce que vous pensez de ces propos en général ?
Alors d'abord, on l'a pas vu, Mojtaba Khamenei. Le fils donc de l'Ayatollah, absolument. Et donc on se demande, même s'il est vivant, en tout cas on a ni vu ni entendu chaque fois.
Vous
c'est
en doutez
parole.
Vous en doutez vous de ça?
On pense qu'il est suffisamment blessé en fait. À quel niveau on ne sait pas trop. On rappelle qu'il était faisait partie en fait de l'endroit où se trouvait la première frappe en fait israélo-américaine et qui a décapité en fait le régime. Et donc on ne sait pas. On pense qu'il est très gravement blessé, mais on ne sait pas si c'est lui qui s'exprime. On ne sait même pas s'il est vivant. Je rappelle que dans certains cas, d'autres leaders, on a su que 2 ans après qu'ils avaient été tués. Donc c'est caché en fait.
Et alors justement, on prend tout de suite la direction de l'Iran où on retrouve Siavosh Ghazi, correspondant à RFI France 24. Bonjour Siavosh, merci d'être avec nous. Comment très concrètement peuvent se traduire les appels à la vengeance du régime iranien ? Est-ce que ça peut vouloir dire une intensification encore plus forte de frappes sur d'autres pays de la région ?
Écoutez, c'est déjà le cas parce que depuis 2 heures, les médias iraniens annoncent donc que 2 bateaux qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz ont été touchés par des missiles ou des drones et 2 autres ont reçu des tirs d'avertissement et donc ont dû rebrousser chemin. Il y a un champ pétrolier au Koweït qui a été visé selon les médias iraniens. Par ailleurs, côté américain, l'Iran dénonce une attaque contre un site nucléaire en construction, le site de Dar al-Foin, qui est situé au Khuzestan. Donc il y a bien sûr une intensification des frappes de part et d'autre, mais l'Iran veut mettre le maximum de pression avec des frappes à la fois en Jordanie, au Kurdistan irakien, contre toujours des bases américaines, mais maintenant aussi contre des infrastructures des monarchies arabes du Golfe Persique. Il faut savoir que depuis ce matin, les Émirats arabes unis qui avaient participé directement dans la guerre, par exemple en menant des frappes contre l'Iran, ont demandé qu'on retourne à la table des négociations, qu'il y ait un arrêt des combats, ce qui signifie que visiblement les frappes iraniennes contre les différentes cibles dans ces monarchies arabes du Golfe Persique commencent à...
Siavosh Ghazi, avec qui la liaison est un peu difficile depuis Téhéran, mais qui nous a apporté effectivement ces précisions. On voit, Général Patrick Dutarte, que les Américains renforcent encore davantage même leur présence dans la région, puisqu'il y a un certain nombre de F-16 qui vont être déployés encore, des F-16 supplémentaires en Jordanie, des dizaines d'avions ravitailleurs. Vous, de ce que vous connaissez, de ces préparations, de ces coulisses en tant qu'ancien général de l'armée de l'air, que prépare Washington ?
Ben, à se mettre dans la posture de faire une opération beaucoup plus importante que celle qui a lieu tous les soirs, en fait, avec plus de ravitailleurs, plus de bombardiers aussi, des B2 et des B1 qui pourraient venir.
Les B2 et les B1, ça permet quoi ?
Ben les B2, c'est ce qu'il y a de plus puissant, en fait, hein, comme bombardier, enfin, avec le B1 et puis le B-52. Mais surtout, il est furtif. Et je rappelle que ce sont ces B2 qui avaient fait le raid extrêmement spectaculaire en juin 2025, hein, sur les trois sites d'enrichissement nucléaire en Iran. Il est possible que la fameuse montagne de la pioche, qui n'était pas très connue des Occidentaux, même des Israéliens, soit l'objet aussi de tirs. Parce que Trump, dans toutes ses tergiversations, n'a qu'une seule ligne directrice sur laquelle il n'a jamais dévié, c'est celle du fait que l'Iran ne se dotera jamais d'une arme nucléaire. Donc il est possible que un bombardement soit effectué sur la montagne de la pioche.
Il est possible aussi qu'un de ses fils conducteurs soit de ne pas subir que l'Amérique ne subisse pas une humiliation et donc sans tête potentiellement.
Oui, complètement. Moi, ce qu'il faut être extrêmement vigilant, c'est qu'il y a la perte d'un aéronef au-dessus de l'Iran, ça pourrait changer beaucoup la donne. Donc je crois que l'un et l'autre, le côté gardien de la révolution et côté Trump, ne voudraient pas une escalade. Mais on se demande s'ils ne vont pas être poussés à cette
escalade.
On voit
ces avions en général. Donc ça, c'est un...
Ça, c'est un B2.
C'est ça.
C'est le fameux B2, ouais. Oui. Et oui, avec cette fameuse bombe GBU-57, qui est la plus grosse au monde, et c'est celle qui avait été utilisée, qui a fait près de 9 tonnes, je crois.
Parce qu'elle a une capacité à frapper en profondeur.
Oui, c'est-à-dire ouais, il y a tout un dispositif qui fait que ça explose pas tout de suite, ça rentre, ça pénètre, et puis le moment ça explose.
Et regardez, on voit cette bombe GBU-57 à l'image, justement, la façon dont elle peut frapper sur ces sites, et effectivement, comme vous dites, c'est peut-être ce à quoi se préparent les Américains et Donald Trump, département d'État américain qui a fait passer des messages.
Oui, un avertissement mondial de prudence en raison des tensions accrues au Moyen-Orient. Donc on envoie des bombardiers plus puissants, on adresse un avertissement mondial.
Oui, et en même temps, les Iraniens font
qu'est-ce
la même chose.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que les téléspectateurs qui nous écoutent, qui voient ce conflit depuis plus de 3 mois, Il y a un processus, un mémorandum de discussion qui a été mis en place. On a l'impression que ça n'a jamais été aussi grave maintenant. Ils durent encore ces 60 jours ? Ils existent encore ? Ou l'avertissement mondial de prudence, ça veut dire à n'importe quel moment, ça peut basculer ?
Oui, malheureusement, je crois que ça peut basculer. C'est vraiment... Nous sommes dans une période d'incertitude totale, en fait. C'est-à-dire qu'on observe que...
Ça peut basculer.
C'est un bras de fer entre les deux, autour des détroits d'Hormuz. Maintenant, la question nucléaire est pour l'instant pas la priorité, même si cette fameuse montagne de la pioche qu'on évoquait avec Jules à l'instant sera quand même un sujet à traiter d'une manière ou d'une autre. On préfère évidemment par la négociation, mais il est possible que ça se fasse par la force.
Mais les détroits d'Hormuz,
en fait, c'est la clé, en fait.
Donc vous dites aujourd'hui, malgré les 60 jours, malgré le mémorandum, aujourd'hui, ce dimanche 19 juillet, on est dans une situation où ça peut basculer, on peut basculer vers un conflit
quelque chose
plus grave,
plus
étendu.
Absolument, une escalade est presque incontrôlable. C'est-à-dire que si les Américains en rajoutent, ou si les Iraniens aussi persistent, eh ben, il est possible que Trump se sente contraint d'enchaîner avec des bombardements plus puissants. Personne ne sait vraiment.
Et ça peut tuer le mémorandum, les 60 jours, ça peut nous...
De toute manière, déjà, il est vraiment en stand-by, hein, pour pas dire qu'il n'existe que... Il a été signé, mais il n'est absolument pas respecté, ni par l'un, ni par l'autre. Je rappelle que le début de cette escalade, hein, c'est lorsque l'Iran a tiré sur des navires qui passaient dans le trou d'Hormuz, hein, c'est ce qui a enchaîné. Et vous voyez où on en est, 8 jours après.
Et à l'instant, les autorités jordaniennes, je vous l'apprends en même temps que je l'apprends, démentent auprès de l'agence France Presse l'évacuation du port et de l'aéroport d'Aqaba. On voit que plus que jamais, la Jordanie se trouve désormais au cœur de ce conflit. Pourquoi ?
Ben, tu sais, parce que elle abrite des bases américaines. Et donc, et puis elle n'a pas eu de discussion particulière avec avec l'Iran. Elle n'est pas en première ligne non plus, hein, parce qu'elle n'a pas de frontière commune avec l'Iran. Et donc, il y a l'Arabie Saoudite entre les deux, cet immense pays, et également les Émirats Arabes Unis. Donc, c'est un choix. Je crois que il y a trois pays étonnamment qui sont vraiment ciblés. Le Koweït, parce que c'est sa proximité. Il y a presque une frontière commune avec l'Iran. Donc, c'est vraiment la facilité. Et le Koweït encaisse tous les jours des tirs. Bahreïn, qui est un tout petit pays. Hein. Bahreïn, c'est un vingtième du Qatar.
C'est une petite île.
En fait, c'est une petite archipel. Hein, il y a 33 îles exactement, mais une île principale. Et ça doit faire, je ne sais plus... c'est très petit. Un vingtième du Qatar. Vous voyez, déjà, le Qatar n'est pas très grand. Mais en fait, c'est un centre d'opération pour l'US Navy. Essentiellement pour les opérations dans la zone. Mais il n'y a pas de grosse base, contrairement à ce qu'il peut y avoir au Qatar, ou aux Émirats, ou en Arabie Saoudite.
Les pays qui jouent le rôle d'émissaires diplomatiques, vous savez, ceux qui font un peu tampon entre les différentes parties prenantes pour
Oman et Pakistan,
d'éviter l'escalade, est-ce qu'elles ont encore un rôle possible dans l'escalade qui est en
cours ? Elles font leur maximum. Le Pakistan et Oman font le maximum pour que les pourparlers
reprennent. Quels sont leurs leviers ?
Ils en ont pas, si ce n'est que le seule chose qui leur est reconnue, c'est qu'ils dialoguent avec tout le monde, en fait, et qu'ils sont reconnus comme des interlocuteurs auprès des Iraniens.
Là, leur voix porte encore maintenant aujourd'hui?
Vous savez, quelle voix peut porter auprès des gardiens de la Révolution? Quelle voix peut porter auprès de président Trump s'il est dans sa logique?
Donc, il y a des voix qui peuvent porter auprès des gardiens de la Révolution?
Non.
Il n'y en a pas.
Je pense qu'il n'y en a qu'une voix, c'est la Chine.
Voilà.
C'est la Chine parce que c'est elle qui s'alimente énormément auprès de l'Iran.
Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on avait vu que ce projet de mémorandum avait émergé quelques jours, quelques semaines après la visite du président américain en Chine auprès du président Xi Jinping. On avait vu depuis la signature du mémorandum, des moments où il y avait eu des éruptions de violence, mais on voit que depuis plusieurs jours, on est passé à un autre niveau. Qu'est-ce qui se joue ? Là, ça y est, nous sommes à l'aube d'un conflit ouvert sur tout le Proche-Orient. C'est un moment de bascule, mon général ?
Ça peut. En honnêteté, ça peut, mais je ne suis pas sûr. C'est très difficile de lire dans le futur.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment que ces jours, c'est différent de ce qu'on a vécu depuis plusieurs semaines ?
Parce qu'il y a eu une escalade, en fait, et parce que le nœud gordien, aujourd'hui, se trouve autour du détroit d'Hormuz. Et les Iraniens ont compris que c'est eux-mêmes qui le disent. Hein, ça vaut trois bombes nucléaires. Hein, oui. C'est plus important comme dissuasion. Alors, effectivement, ça n'aura qu'un temps. Mais pour l'instant, c'est la position géographique. Il y a 900 km autour du golfe Persique et 300 km quasiment, ou 500 km autour du détroit d'Hormuz.
Donald Trump menace d'un conflit plus large. Ce sont des mots ou qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ?
Alors, conflit plus large, s'agissant de Donald Trump, ça veut tout simplement, c'est que deux objectifs qui ne sont pas traités jusqu'à maintenant, comme des centrales électriques ou des sites d'infrastructures, pourraient être traités par l'armée américaine. On n'en est pas là. Et en fait, les deux ne veulent pas, mais ils savent pas trop comment sortir de cette situation un peu de blocage.
Vous avez de l'expérience, mon général. Est-ce que, de mémoire, ce conflit qui est quand même très étrange, avec beaucoup de communication, mais avec un enjeu crucial qui est le détroit d'Hormuz, qui a un impact partout sur le globe, est-ce que vous avez souvenir d'un conflit qui ressemble à celui auquel on est en train d'assister à distance aujourd'hui ?
En fait, quand vous observez, les conflits sont tous différents. C'est ce qu'on a observé depuis 40 ans, hein, depuis la première guerre du Golfe. La première guerre du Golfe n'avait rien à voir avec la deuxième guerre du Golfe. Ce qui se passe en Ukraine n'a rien à voir avec ce qu'on a connu. Donc chaque conflit est typique et beaucoup lié à la géographie, à l'histoire, évidemment, aux forces en présence. Et donc là, on a un pays qui a une capacité d'armement assez importante, dont cette capacité de nuisance a été fortement amoindrie, mais personne ne sait jusqu'à quel niveau, qui ne tire pas sur les États-Unis, qui tire sur les intérêts américains dans la zone et surtout sur les sur les pays du Golfe.
Merci, mon général. On apprend justement, pour terminer cette émission, et c'est exactement ce qu'on évoquait, les nouvelles cibles ou pas des États-Unis. Alors, prudence, hein, c'est une affirmation de Téhéran. Mais à l'instant, cette information que je vous communique, l'Iran affirme que les États-Unis ont attaqué une centrale nucléaire en construction. Je ne sais pas précisément de quel chantier il s'agit. mais l'Iran qui affirme effectivement que les États-Unis ont attaqué une centrale nucléaire en construction, peut-être l'une de ces nouvelles cibles. Vous restez bien sûr avec nous sur BFM TV. On va suivre évidemment tout au long de cette journée cette remontée de tension entre l'Iran et les États-Unis, mais tout de suite, bien sûr, cette affaire suivante avec Pauline Rovna et Dominique Rizet. À très vite.